C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des DNVB et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va ce matin ?
Ça va très bien. Alors si je te dis Bergamote, Jimmy Farley, Le Slip Français, Teddy Bear, Horace...
Que des marques qui datent de 1854 et qui se sont construites en magasin tranquillement.
Eh bah, ben pas du tout, pas du tout. Ce sont des DNVB et ce sont les DNVB. Ce sont quand même les bons élèves en social media. On va parler de ça ce matin. Et c'est vrai qu'elles mettent. Déjà, elles ont disrupté, comme on dit, hein, le marché du trade, hein, le marché du retail. Et puis, elles impactent fort sur les réseaux sociaux et même pour les marques traditionnelles. Il y a plein de choses très intéressantes à prendre, à piquer hein, du côté des marques DNVB.
Oui, surtout en ce moment, avec les confinements successifs, la crise sanitaire, etc., y a plein de choses à aller piquer chez ces marques-là, qui sont des digital native vertical brands et qui sont bien mieux armées que les marques historiques pour lutter en ce moment contre tous les éléments un peu contextuels.
Ouais, c'est vrai que l'année 2020 et ces deux confinements, hein, on espère qu'il n'y en aura pas plus en 2021, et ces deux confinements auront vu s'accentuer eh bien l'écart entre ces deux écoles. Hein. D'un côté, les marques traditionnelles vendues en boutique qui s'appuient sur un modèle B2B2C. Je passe par une boutique, j'achète mon produit final. Et puis, de l'autre côté, les DNVB, comme tu l'as dit, les Digital Native Vertical Brands, qui sont des marques 100% digitales, qui vendent en digital et puis aussi qui fédèrent des audiences fidèles et engagées sur les réseaux sociaux. On le voit, cet écart se creuser. Et aujourd'hui, eh bien, il faut regarder de plus près hein, ce qui se passe de côté de ces marques DNVB.
Ouais, alors on va peut-être commencer par définir hein, qu'est-ce que sont ces marques-là. C'est d'abord des marques qui sont nées exclusivement en ligne et qui vendent exclusivement en ligne à la base. C'est ce qui les définit. Et puis forcément, souvent, ce sont aussi des marques qui ciblent les millennials et les digital natives sur les réseaux sociaux.
Ouais, alors là, pour définir les DNVB, ben plein d'acronymes.
Ouais.
Forcément, alors DNVB, Digital Native Vertical Brands. Et puis de l'autre côté, ce sont des marques qui sont des D2C, Direct to Consumer, D2C, Direct to Consumer. Donc, elles vendent en direct à leurs clients. Et puis, elles sont aussi, évidemment, bien souvent B2C, Business to Consumer.
Oui, aucun intermédiaire. C'est ce qui fait un petit peu la richesse et l'économie florissante de ces marques-là. On va y revenir. Mais c'est notamment, comme tu disais, ce lien direct entre la marque et son consommateur.
Ouais, alors, si le terme DNVB commence à rentrer hein, dans le langage courant, vous l'avez sans doute vous aussi beaucoup entendu ces derniers temps, bah, il est en réalité assez neuf, hein, ce terme. On a l'impression qu'il est là depuis un moment. En fait, c'est la première fois qu'il a été utilisé. C'était en 2016. C'était pour parler de la marque Bonobos, qui est une marque de vêtements pour femmes et qui, à l'époque, était arrivé avec un modèle justement sans intermédiaire, direct, marque-client.
Ouais, en fait, on fait plein d'économies d'échelle quand on est une marque et qu'on peut se permettre de vendre en direct à ses clients. On s'évite tout un tas de choses, j'ai envie de dire, d'un ancien modèle qui, avec des revendeurs, avec des livreurs, avec tout un tas de choses qu'on maîtrise pas forcément, qui sont externalisées et qui nous font, au final, qui rajoutent des coûts hein, à notre marque. Ce qui est pas le cas pour ces marques-là qui, du coup, gèrent eux-mêmes tout le système de A à Z.
Ouais, ce sont des marques qui sont développées sur un principe de smart cost. C'est-à-dire, on fait un beau produit, hein, c'est un peu le principe, mais souvent un monoproduit. Hein, en tout cas, au début, bien souvent, ces marques DNVB, elles se créent sur un produit. Je prends la marque Teddy Bear, tu sais, cette marque qui vend des matelas, par exemple. Au début, ils sont arrivés avec un seul et unique matelas. Et puis aujourd'hui, ils ont une vaste gamme. Pareil pour le slip français, comme son nom l'indique, c'est pas des pull-overs ni des chaussettes, c'est des slips. Et au départ, c'était un monoproduit qui était un slip. Les DNVB, ce qu'elles ont surtout, c'est qu'elles se passent, comme tu dis, d'intermédiaires. Elles font de la vente directe et puis surtout, elles abordent petit à petit la question de leur offre en la co-construisant avec leurs audiences. Et on va reparler de tout ça.
Oui, on va reparler effectivement du marketing qui est un petit peu partout et des allers-retours qui peuvent exister entre le client et la fabrication même du produit. Mais comme tu le disais, c'est assez intéressant hein, que que ces marques arrivent avec souvent un seul produit, une innovation ou un produit particulier qui touche directement ses clients. Et puis, il y a autre chose hein, qui les définit aussi fortement et qui est primordial dans la lecture qu'on peut avoir de ces marques-là, c'est qu'on a le sentiment souvent d'appartenir à une communauté. Hein. Quand on est client de ces marques sur Internet, on est proche de la marque et a une vraie expérience client.
Ouais. Et ben aussi, ça tient au fait que les DNVBI trustent les réseaux sociaux. Hein. Depuis quelques années, ils sont au cœur des plateformes et surtout, voilà, ils prennent le lead hein, sur toutes ces nouvelles fonctionnalités, social shopping, etc. Ils engrangent des communautés substantielles. Alors, je suis tombé sur une étude très intéressante proposée par Hype Auditor, une étude qui a été faite sur un panel de 298 DNVB françaises. Donc, c'est quand même très intéressant. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? On apprend que 75% des DNVB ont moins de 50 000 followers. Sont globalement, c'est pas des communautés qui ont vocation à être gigantissimes, mais c'est des communautés qui sont extrêmement niches, extrêmement ciblées, extrêmement actives autour d'un produit, autour d'une marque. Elles sont très investies dans la marque. À noter quand même, elles sont le gros de la fourchette, le gros des DNVB se situe, on va dire, entre 10 et 50 000 followers. T'as que 14% qui ont moins de 5 000 followers. Donc, ce sont des marques qui sont très actives en ligne, mais qui ont créé from scratch hein, leurs audiences.
Oui. Et c'est ça qui change tout, c'est qu'en fait, leurs clients sont souvent des personnes qui font d'abord partie de leur communauté et qui ensuite sont leurs clients et achètent leurs produits. Et c'est ça l'inversement avec des marques traditionnelles. Et c'est ça aussi qui fait que l'expérience client est complètement différente.
Et puis, les DNVB, ils investissent. Hein. Ils investissent en ligne. C'est leur canal, hein, et notamment sur Instagram, car ce canal, eh ben, il est en adéquation bien souvent avec leur ADN, sans doute aussi avec leur public cible, leur audience. Un peu plus de 10%. Alors, deux, trois petits chiffres là-dessus en investissement. Hein. Pareil, dans la même étude à Hype Auditor, on apprend, et j'ai été surpris du chiffre, que le budget d'influence marketing en moyenne sur Instagram pour une DNVB, c'est 80 000 euros par an. C'est quand même beaucoup. Hein,
rapporté
un certain nombre de marques plus traditionnelles que nous, on accompagne. 80 000 euros d'influence marketing par an pour une DNVB française, c'est beaucoup.
Bah, tu as certaines marques qui sont d'un niveau national, c'est leur budget social media tout compris. Donc, quand tu vois qu'il y a 80 000 euros juste pour l'influence marketing, tu te dis, OK, ils prennent vraiment au sérieux dans leur communication. Le social media, c'est un axe principal, c'est pas quelque chose qui vient en plus.
Allez, on vous met en note de cet épisode, hein, cette étude Hype Auditor très intéressante. Pour revenir au sujet DNVB, les DNVB, elles ont plein de manières de raconter leur marque et c'est très intéressant. C'est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, pourquoi elles ont la possibilité de le faire, c'est que bien souvent, elles se créent hein, sur les réseaux, elles sont natives des plateformes et du coup, les DNVB, elles intègrent nativement le storytelling entrepreneurial. Ça fait partie de la stratégie de fidélisation. Je trouve ça très intéressant. Alors, si on prend deux, trois exemples, Justine Hutto et Respire, par exemple, hein, on l'a tous vu, cette vidéo de Justine qui raconte comment elle a inventé son déodorant. Vous l'avez vu sur LinkedIn, c'est obligé. Et comment cette marque Respire, petit à petit, s'est créée sur cette base de storytelling entrepreneurial. On connaît aussi tous le storytelling de Guillaume Gibault du slip français, qui raconte comment sur un pari, il a inventé le slip, etc. C'est storytelling bien ficelé. Tout ça, c'est natif et c'est dès le départ du fondement de la marque intégré dans la communication.
Oui, comme on le disait juste avant, ça vient même avant de présenter les ventes et on est tout de suite dans le... Si peut-être que je brûle un peu les étapes, mais on est tout de suite dans le why, on est tout de suite dans le pourquoi on fait ça et dans le storytelling. Et au final, en tant que client, en tant que consommateur, bah, on adhère d'abord à ce storytelling, on adhère d'abord à toute l'histoire de la création de la marque avant de venir acheter un premier produit bien souvent. Et on peut même aller plus loin, parler de co-construction aussi par exemple, puisque le fait d'être autant présent en ligne et de raconter l'histoire de la marque en ligne, de se construire en ligne, bah, on se construit aussi avec ses consommateurs et du coup bah, y a toute une idée de co-construction qui peut arriver.
Ouais, avant, une campagne de communication, elle démarrait à la commercialisation du produit, hein, c'était le principe, j'ai mon produit, il est passé en R&D, je l'ai testé, etc. Il a été approuvé, potentiellement il est passé entre les mains d'un certain nombre de panels conso et puis ça y est, il faut lancer la sauce, il faut le commercialiser, là il faut communiquer. Avec les DNVB, eh ben, elles démarrent bien avant l'opération de communication, le démarrage du projet, la constitution des équipes, le Kickstarter éventuellement, le premier client, etc. Tout ça est mis en scène. Les DNVB, ils ont radicalement changé le média plan de base d'un lancement de marque ou d'un lancement de produit. Je trouve que c'est très intéressant de rapporter ces mécaniques-là, y compris à des marques traditionnelles. Comment est-ce qu'on peut se nourrir de ce story storytelling et anticiper, remonter d'un cran son média plan pour un lancement de produit.
Et bien souvent, les marques traditionnelles, elles vont designer un produit, elles vont ensuite l'envoyer en production, le fabriquer, elles vont après, à ce moment-là, commencer à en parler et déclencher tous les plans de marketing pour derrière le distribuer et enfin le vendre. Et puis après la vente, en plus, elles vont souvent commander des grandes études pour savoir est-ce que ça a plu, est-ce que ça a pas plu, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Et puis là, on revient au début de la chaîne et on repart pour du redesign. L'avantage de ces marques, ces digital natives, c'est des marques qui vont dès le départ, en fait, comme tu disais, venir faire entrer le consommateur dans l'histoire et dans la chaîne de production. Et en fait, dès le début, il va y avoir des allers-retours. Le marketing va être présent partout et c'est lui qui va jouer ce rôle de presque de game changer, puisque c'est lui qui va être là entre les deux, entre les consommateurs et entre toute la chaîne de production jusqu'à la vente, pour remonter les infos qu'il peut avoir du marché.
Ouais, les DNVB, elles se nourrissent de leurs audiences pour faire évoluer leur offre. Ça, c'est la grosse leçon à retenir. Alors, une marque Asphalt, hein, cette marque de mode française, qui va même encore plus loin, c'est que tu commandes hors stock. Ils n'ont pas de stock, hein, donc tu commandes à l'avance, hein, ton produit, et puis après, il sera fabriqué. Tu vas le recevoir quelques semaines, quelques mois plus tard. Mais vu que tu participes à la co-construction de ce produit, vu que tu es interrogé et que tu suis ce storytelling-là, ce produit-là, c'est le tien. T'es prêt à attendre. Ça, c'est quand même assez génial. La stratégie, c'est presque toujours la même avec ces marques DNVB. Au début, elles génèrent une première communauté. Elles collectent de la data dessus. Et puis, sur cette base-là, les marques, elles font petit à petit évoluer leur offre, hein, de façon super agile pour ensuite la compléter potentiellement avec les cas que je racontais tout à l'heure. On étoffe une gamme où on développe des nouvelles fonctionnalités, où on adapte son produit, etc. Quand des Teddy Bear, la marque dont je parlais tout à l'heure, lance des coussins à mémoire de forme. La marque, au préalable, elle a écouté ses audiences, elle ne faisait que du matelas, et puis elle s'est rendue compte, forcément, qu'au cœur de ses audiences, de ses communautés super engagées, eh bien que le sujet de l'oreiller, il revenait fréquemment dans les audiences. Il revenait en plus avec des précisions sur le type d'oreiller attendu, etc. Et à partir de là, quand ils ont eu la certitude en social listening, en écoute de bruit au cœur des plateformes qui pouvaient agrandir la marque, ils l'ont fait à ce moment.
Et on le dira jamais assez, hein, mais cette écoute de bruit, c'est le cœur de votre social media, c'est le community management, c'est le conversationnel. Et plus vous allez mettre de points de focus, d'efforts, plus vous allez développer cet aspect-là de votre stratégie, plus vous allez pouvoir remonter des informations à l'intérieur de votre marque et vous allez pouvoir innover, créer des produits plus adaptés aux besoins de vos consommateurs.
Et ça, une marque traditionnelle, elle doit pouvoir aussi tirer le même genre d'enseignement, hein. Vos équipes CM, ils sont au cœur de la vérité, au cœur des communautés. Comment est-ce qu'ils peuvent vous faire remonter de la data, de l'insight pour nourrir votre marketing et faire évoluer votre offre, peaufiner vos actions in real life, hein, vos événements de marque. Là, il y a plein de choses à aller chercher. Autre sujet autour des DNVB, ce qui est ultra intéressant, c'est, tu l'as dit tout à l'heure à Jeanne, c'est que les DNVB, ils mettent leur why, leur pourquoi, leur raison d'être au cœur de leur pilier de contenu, et ils passent surtout de la promesse à la preuve. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très propre aux DNVB. Alors déjà, elles ont la chance, ces marques-là, de se créer sur une page blanche. Et donc forcément, elles peuvent mettre en scène, en tout cas être cohérentes sur leur why par rapport à des marques plus historiques. Les deux marques comme ça à noter au passage, 1083, tu connais peut-être cette marque de jean, hein, c'est de la région, c'est pas très loin, ils sont en Drôme, et 1083, la promesse, c'est des jeans et des chaussures fabriquées en France à moins de 1083 kilomètres de chez vous. Voilà, c'est ça la promesse qui est faite par 1083, J-H-O, qui veut dire juste et honnête, hein, c'est la contraction de juste et honnête. Et ben, ils vous promettent des protections hygiénique clean chez vous tous les mois. Tout ça, toutes ces marques, elles ont intégré le why aux fondations, je dirais, de leur prise de parole de marque, aux fondations de leur offre.
Mais pourquoi aussi ? Parce que ces marques-là, elles se sont fondées en pensant dès le départ leur marketing et leur communication aussi autour de leur why et autour de la construction de la marque. Alors que les marques historiques dont on parle tout à l'heure, elles ont un véritable effort qu'elles vont devoir faire.
Elles ont des casseroles parfois aussi.
Voilà, elles se sont construites complètement en dehors de ces questionnements-là. Et aujourd'hui, qu'elles doivent s'adapter aux réseaux sociaux et qu'elles doivent donc réfléchir à comment établir leur stratégie, elles doivent repenser leur why et en plus plus, souvent, les personnes qui sont aux manettes de toute cette partie communication sont pas forcément, ont pas les mains libres pour pouvoir redécider de tout ça. Mais c'est pourtant l'effort et le défi qu'elles vont devoir surmonter pour s'adapter.
Et tu as raison d'utiliser le mot défi, parce que c'est dur pour les marques traditionnelles de faire face à des nouveaux arrivants comme ça qui arrivent tout propres, les mains blanches et qui promettent des choses et puis surtout qui peuvent en donner la preuve, storyteller leurs avancées sur ces sujets RSE, ces engagements de marque. C'est vrai que ça complique la tâche des traditionnels. Et puis les DNVB, hein, pour finir, ou pas, tiens d'ailleurs, pas, peut-être pas pour finir, elles ont instauré, ce qui me fait des signes, il y a déjà me dire, et on parle beaucoup là des DNVB, les DNVB, ils ont instauré l'expérience client au rang, ils ont instauré l'expérience client au rang de religion, c'est vraiment un truc notable, hein. Et là aussi, parfois, ils mettent un coup de vieux aux marques traditionnelles. Pourquoi ? Bah, parce qu'ils proposent une expérience direct to customer, le client, ils l'ont en direct, ça passe pas par une boutique avec des revendeurs, etc., ou une marque traditionnelle délègue son expérience client. Là, la DNVB, ben non, c'est à elle de jouer, quoi.
Ouais, on connaît bien ce problème-là sur certaines marques. Effectivement, vous avez des services de communication entiers qui vont réfléchir, hein, à comment bien parler des produits, à comment bien en vendre, qui vont transmettre toutes ces informations-là à un revendeur. Sauf que vous ne savez pas si en magasin, ce revendeur-là, il fait bien l'effort de reprendre toutes le guide que vous lui avez fourni et toutes les manières dont il peut parler de ce produit-là. Et vous êtes du coup plus maître de comment le client au bout de la ligne, au bout du tunnel de conversion, lui, le client, comment il aperçoit votre produit et comment il aperçoit votre marque qui va avec. Donc ça, c'est sûr que c'est un enseignement qu'il faut retenir pour ces marques.
Ouais, et là, il y a deux cultures encore qui s'affrontent. Hein. Tu as d'un côté la culture du magasin, du shop, qui est la culture d'une marque traditionnelle distribuée en commerce. Et puis de l'autre côté, la culture de la data, puisque on l'a déjà dit, hein, les DNVB, ben oui, ils pilotent avec la data. Qu'est-ce que leur dit leur audience ? Qu'est-ce qui remonte comme chiffre ? Où est-ce qu'il y a des points à améliorer, etc. Puis alors, ultime sujet, c'est que les DNVB, ils laissent une place importante à la communauté pour prendre la parole, pour défendre la marque. En gros, ils laissent de la place systématiquement dans leur pilier de contenu aux UGC, un User Generated Content, parce qu'ils rapportent de la preuve sociale. Ça aussi, comment est-ce qu'on peut, en tant que marque traditionnelle, réintégrer ça dans son social media?
Oui, en fait, c'est tout simplement un inversement de la perception qu'on peut avoir aussi d'arrêter le top-down qu'on connaît traditionnellement chez ces marques-là pour venir se placer au niveau de ses clients et prendre en compte aussi ce que ses propres clients racontent sur les plateformes et les réseaux sociaux.
Voilà, scrollez n'importe quel compte Instagram de DNVB, vous verrez la place qui est laissée aux images, aux contenus, aux témoignages, vidéos, photos issus de leurs clients, issus de leur communauté. Et ça, c'est peut-être une leçon à tirer quand on est une marque traditionnelle, de laisser davantage la parole à ses audiences, à sa communauté.
C'est clair.
Voilà, beaucoup de choses à dire sur les DNVB. Les bons clients, ce sont les bons élèves du social media, les DNVB. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis qui nous écoutent, est-ce que vous êtes d'accord avec nous?
Ouais, venez nous raconter un petit peu tout ça à Supernatif sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, TikTok, Pinterest, de partout comme d'habitude. Venez en parler avec nous et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors n'hésitez pas à aller nous mettre une petite note là tout de suite maintenant,
puis
ça nous fait super plaisir. Merci de nous écouter déjà aussi sur cette plateforme de podcast tout simplement.
C'est sympa, voilà, non, franchement déjà, c'est sympa.
Et sinon, parlez-en autour de vous, ça nous ferait super plaisir.
On vous embrasse et on vous dit à demain. Salut à
ciao,
tous.
Ciao.